Jacques Lallier condamné en appel pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Le président de la province des Îles est notamment frappé d'une peine d'inéligibilité de 2 ans. Vous entendrez sa réaction. Les premiers échanges du Nouméa Women's Forum, la 4e édition de cet événement dédié aux femmes, s'est ouvert ce matin. Une page d'histoire dans ce journal pour évoquer le livre de Philippe Palombo sur la santé en Calédonie et pour la fresque du Résolution inaugurée sur le cinéma de Bouraille. En métropole, Michel Barnier consulte les groupes politiques à l'Assemblée. Il fait tout pour éviter une motion de censure sur le budget 2025. Les agriculteurs restent toujours mobilisés. Ils doivent poursuivre leurs actions au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et puis en sport, le point sur le Vendée Globe. La flotte emmenée désormais par Charlie Dalin fait route vers le Cap de Bonne-Espérance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les centres de vacances à Agré se préparent pour accueillir les enfants pendant la période estivale. Elles le font évidemment dans un contexte compliqué auquel s'ajoutent des difficultés pour obtenir les habilitations nécessaires pour ouvrir les formations pour les animateurs des centres de vacances. Nous en parlerons ce midi dans le magazine citoyen avec nos invités, Brieux-Pierre Large, le directeur des villages de Magenta, et Christian Canel, le secrétaire général de la CAF. C'est une décision de justice qui était attendue. Jacques Lallier est donc condamné à 2 ans d'inéligibilité dans son procès en appel pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public en 2020 pour moderniser le système informatique de la collectivité. La sanction pour le président de la province des Îles est allée au-delà des réquisitions et de la peine prévue en première instance. Il écope en effet de 12 mois de prison avec sursis, d'une amende d'1 million de francs et donc de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Une peine que le président de la province des Îles a vivement critiquée.
C'est un assassinat politique. Ça note toujours le caractère un peu colonial de cette justice, parce que j'ai l'impression qu'on fait porter tous les maux des événements et tout ça, le climat. Et donc, je regrette pour la République, parce que je ne méritais pas ça. Ils m'ont même fait une application provisoire, et donc j'attends l'arrêté du haut-commissaire. En plus, comme on a des rendez-vous... L'assemblée que j'ai déjà convoquée, c'est un peu malvenu. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à foutre de nous, en tout cas de la province des Îles. Et donc, il y a des fautes qui ont été plus importantes, plus graves que ça. Et on fait porter quelque chose de minime. 2 ans d'inéligibilité, mais ils exagèrent un peu quand même. Je disais tout à l'heure que ce n'est plus la justice coloniale, c'est la justice coloniale. C'est même ridicule, la sanction qui m'est donnée par rapport à l'erreur et puis par rapport à... la légitimité d'une commission d'appel d'offres.
Jacques Lallier qui réagissait donc à sa condamnation au micro de Nicolas Legrand à l'occasion de la séance du Congrès qui se déroule ce matin boulevard Vauban. Jacques Lallier a dit entendre, vous l'avez entendu, l'arrêté du haut-commissaire. C'est en effet à ce moment qu'il sera démis de ses fonctions de président de l'Assemblée de la province des Îles et de ses mandats électifs. Le Congrès qui est réuni pour étudier un projet de délibération relatif à la création d'une aide énergie exceptionnelle au bénéfice des ménages impactés par les conséquences des violences de mai 2024. Cela concerne dans le texte proposé par le gouvernement les personnes au chômage total, qu'elles soient au chômage de droit commun ou spécifique, liées aux violences insurrectionnelles entre mai et septembre. 7 500 personnes sont indemnisées par la CAFAT. Le gouvernement prendrait en charge la facture d'électricité avec un plafond de 5 000 francs pour 4 mois maximum, ou alors 20 000 francs pour régler les arriérés. Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à 200 millions de francs. Le débat a été technique ce matin, notamment autour de la prise en compte des différents bénéficiaires. Le dispositif participation citoyenne relancé par la ville de Dumbéa en partenariat avec l'État et la gendarmerie. Il a pour objectif, Léana Colombo, de prévenir la délinquance et les cambriolages au sein de la commune.
Oui, lancé pour la première fois en 2017 dans des quartiers tests, ce dispositif est cette fois-ci étendu à l'ensemble de la commune de Dumbéa. La participation citoyenne est à différencier des voisins vigilants qui vient en complément de l'action de la gendarmerie sur la commune, explique le maire de Dumbéa, Johan Lecourieux.
C'est pas non plus un dispositif de sécurité, c'est un dispositif de veille qui collabore avec des forces de police et de gendarmerie. Et donc, ça va durer, là, nous signons le dispositif pour 2 ans. Mais après, l'objectif, c'est de durer le plus longtemps possible et de poursuivre ce maillage du territoire au point de vue prévention et au point de vue sécurité sur l'ensemble de la commune.
Il s'agit d'un dispositif qui marche dans un sens, mais aussi dans l'autre, avec un partage d'informations entre les citoyens et la gendarmerie, explique le colonel Bayarja, commandant en second de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
L'objectif, c'est que ce ne soit pas la gendarmerie qui travaille toute seule de son côté, mais vraiment qu'il y ait un échange, une perméabilité entre la population et les gendarmes, de manière à ce que la population ne soit pas apeurée à l'idée d'aller voir les gendarmes. On le constate quotidiennement. La gendarmerie, quand on n'a jamais été confronté en tant que victime, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'ose pas toujours aller voir, et même pour des faits qui sont minimes, il est important pour nous d'avoir ces remontées d'informations. On a beaucoup de monde sur Dumbéa, on a beaucoup de gendarmes actuellement qui sont déployés, et quand on oriente nos services, il faut qu'on ait une vision assez globale de la situation, et c'est pour ça que d'avoir ces référents qui puissent avoir ce contact privilégié avec nous est très important.
Un symbole important pour la mise en place d'une sécurité durable dans le Grand Nouméa, qui a été durement touché par les émeutes du 13 mai et qui reste une priorité selon le haut-commissaire Louis Lefranc.
C'est souvent une question de délai. Donc de jour, une patrouille de gendarmerie interviendra plus rapidement, plus efficacement si le renseignement qui lui est donné est précis. Et elle interviendra avec un délai plus long, notamment pour la partie judiciaire en termes d'enquête, quand le renseignement est imprécis et a un caractère qui peut être soumis à question. Et donc, cette chaîne de l'alerte, c'est une chaîne que M. le maire de Dumbéa a souhaité réactiver. Ça fait l'objet d'un protocole qui a été réactualisé là, cette année et qui remonte à 7 ans, donc en 2017. Entre 2017 et 2024, il ne s'est pas produit des événements aussi graves que ceux que nous avons connus depuis le 13 mai. Donc il était important que ce travail soit fait, et ce que je souhaite, c'est qu'il soit bien évidemment mis en œuvre aussi dans les trois autres communes, puisque ce sont les quatre communes de l'agglomération du Grand Nouméa qui ont été durement touchées par ces émeutes, par ces destructions. Et donc plus vite on sait, mieux on est efficace, plus on est efficace. Et donc pour cette raison, l'initiative du maire de Dumbéa est une initiative heureuse.
Pour les personnes souhaitant devenir référent de leur quartier, il suffit de se faire connaître auprès de la mairie qui transmet ensuite les candidatures à la gendarmerie. Vous avez jusqu'au 26 novembre pour candidater.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse d'abord à notre question d'hier. 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que l'élection d'Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'Union calédonienne soit un signe positif pour la recherche d'un accord global. Ils ne sont que 6% à y voir un signe positif. Et puis voici notre question du jour. Pensez-vous que les conditions seront réunies pour la levée du couvre-feu et de toutes les restrictions administratives au moment des fêtes de fin d'année ? Si vous pensez que les conditions seront réunies, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Avant de marquer une pause, vous avez sans doute constaté des perturbations sur les lignes OPT ce matin à Nouméa. Vers 6 heures, des problèmes sur les réseaux mobiles et Internet ont été constatés. Dans un communiqué, l'OPT indique que ces perturbations étaient la conséquence d'une intervention sur le réseau mobile et que tout est rentré dans l'ordre aux environs de 9 heures ce matin. Il est 11h38, la première pause de ce journal, avant de parler de l'ouverture ce matin du Nouméa Women's Forum.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés, et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13103.
L'enquête publique du plan d'urbanisme directeur de Païta est ouverte. Jusqu'au 3 janvier, consultez le projet en mairie, en ligne ou auprès de la commissaire enquêtrice et faites entendre votre avis. Rendez-vous sur pud-païta.nc pour plus d'infos.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Trois journées de rencontres pour mettre en avant la place des femmes dans le monde économique. Le Nouméa Women's Forum, organisé par la Province Sud, débute aujourd'hui. Et cette quatrième édition est placée sous l'angle de l'économie sociale et solidaire, Charlotte Coulson.
Quatre années de rencontres déjà pour les femmes calédoniennes. Et cette année, l'accent est placé sur la solidarité. Le but est simple, offrir aux femmes des outils pour valoriser leur place dans l'entrepreneuriat, s'inspirer des expériences des unes et des autres. Et c'est aujourd'hui qu'ont débuté ces rencontres au centre administratif de la Province Sud. Naya Ouattéou, présidente de la commission développement économique à la province et l'organisatrice du Nouméa Women's Forum. Comme elle l'explique, cette première matinée pose les bases de ce qu'est l'économie sociale et solidaire.
L'objectif d'une première journée, c'est toujours de poser un cadre. C'est vrai que l'économie sociale et solidaire, on commence à en entendre beaucoup parler depuis quelques temps. Mais déjà, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? Qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce que ça représente? Ça va être l'objectif de cette première matinée, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont engagées dans ce mode d'entreprendre autrement. C'est aussi parce qu'on reste sur une démarche d'entrepreneuriat et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, des ateliers, des tables rondes pour savoir quels sont les outils pour pouvoir monter son projet, à qui est-ce que je peux en parler, qui peut m'aider dans ma démarche. Le Women's Forum, c'est ça, c'est de permettre toute cette émergence d'initiatives, mais qu'elle puisse se concrétiser et que derrière on puisse très rapidement voir les premiers résultats sur des démarches de femmes qui entreprennent et qui ont envie de réussir.
Un rendez-vous qui a attiré déjà beaucoup de monde ce matin. Les femmes présentes au CAP sont venues pour développer un réseau, se renseigner sur les dispositifs mis en place par la province ou tout simplement pour écouter.
Alors on est venu par rapport à l'économie sociale et solidaire et on est venu simplement écouter des expériences, des échanges, voir si ça peut nous aider en apprendre un petit peu plus sur ce domaine-là qui reste assez flou. Puis là, on voit que c'est quand même quelque chose qui tend à se structurer, à se cadrer.
Je suis vraiment là pour écouter, pour échanger. J'aime beaucoup l'interculturalité de ce Nouméa Women's Forum et tout ce que ça a pu amener depuis 4 ans.
Alors pour moi, c'est un événement à ne pas manquer, qui met les femmes à l'honneur. Je crois fortement en ce projet, surtout après la période difficile que nous avons vécue, et se baser sur une économie qui replace la solidarité au centre de nos actions, je pense que c'est un thème prioritaire. Donc je suis impatiente d'assister aux différents ateliers et aux interventions de certaines de mes collègues.
Le Nouméa Women's Forum continue à la FOL ce jeudi 28 novembre et se termine vendredi au centre administratif de la province Sud.
Une page d'histoire maintenant, et d'abord pour parler de mémoire de santé calédonienne. C'est le titre du livre que vient de sortir Philippe Palombo, ancien directeur du CHS de Nouville, qui était notre invité ce matin à 7h30. Dans cet ouvrage très riche en illustrations et en anecdotes, l'auteur décrit l'évolution des services de santé en Nouvelle-Calédonie depuis l'arrivée des premiers militaires en 1853. Une évolution qui s'est faite très rapidement, explique Philippe Palombo.
La première infirmerie, c'est celle de Fort Constantine, qui était un fort défensif que Tardy de Montrabel a mis en place. Et petit à petit, ils vont s'intéresser à avoir des points d'appui, notamment à Napoléonville, qui va devenir Canala, et tout autour du territoire et dans les îles. Et rapidement, bien sûr, de Nouméa, on va installer une structure, on va installer l'eau courante avec effectivement la connexion à Yaoué, avec des tuyaux qui vont atteindre 13 km et ensuite des becs de gaz et bien sûr la population allant s'étendre avec la colonisation, et bien les médecins vont se retrouver tout autour de ce territoire, en gros tous les 30 km. Ça va être structuré en 1927 en particulier avec la création de la direction de la santé et l'hygiène publique où tout le corps médical est et hors budget des armées. Et c'est là que l'épopée va se développer.
Une épopée qui va se développer pendant 130 ans, puisque le secteur de la santé ne passera entre guillemets dans le juron public qu'en 1983. Cette histoire du rôle de l'armée dans le service de santé en Calédonie est aussi l'occasion pour Philippe Palombo de dresser le portrait de médecins qui ont parlé, qui ont marqué cette histoire, notamment Gaston Bourret, qui a donné son nom au CHT.
Il est connu par rapport à son décès, qui était un peu particulier. Il est dans son laboratoire, il utilise des bacilles pesteux.
On est en 1917.
Voilà, une éprouvette se brise. Son assistant et lui essayent de se nettoyer avec les process que l'on connaissait à l'époque. Et hélas, il est affecté. Et il s'enferme dans son laboratoire en interdisant à son épouse et à sa petite fille de venir le voir. Et il note journalièrement tout ce qui lui arrive. Et en fait, il meurt la veille où le bateau arrive de Marseille pour lui apporter sa médaille des épidémies. Et son nom sera donné à l'Institut de microbiologie qui deviendra Institut Pasteur quelques années après.
Et pour les personnes intéressées, notez que Philippe Palombo dédicacera son livre samedi à l'As de Trèfle Magenta à partir de 10h et le 7 décembre au Quartier Latin à l'As de Trèfle également. Interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Et puis le cinéma Polka Dupré s'embellit encore à Bouraille. La commune a choisi en effet de marquer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en y peignant des fresques. Et aujourd'hui, c'est le navire qui a transporté James Cook il y a 250 ans qui a été mis à l'honneur, Charlotte Coulson.
Il arrivait sur le territoire le 4 septembre 1774 et inscrivait pour la première fois la Calédonie sur une carte. James Cook débarquait à bord du HMS Résolution, un navire qui décore maintenant les murs du cinéma Polka Dupré à Bouraille. La fresque était inaugurée ce matin en présence du maire de la ville, Patrick Roblin.
C'est vraiment historique. C'est-à-dire que sur le parvis du cinéma, là où il y a toujours beaucoup de gens qui viennent, où il y a des apéros qui sont organisés, lorsqu'il y a des films, il y a des débats sur le côté et tout, ça permet à tous les visiteurs de venir et de découvrir une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie étant une île, toutes les personnes qui sont arrivées sont fortement arrivées à l'époque par bateau. Et c'est une façon de rappeler à tous les visiteurs une partie de l'histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie.
Et ce sont les mains de l'artiste bourraillé Guy Tou qui sont derrière cette fresque. Avant le HMS Résolution, il a déjà peint la Monique et l'Iphigénie. Et la série continue. Prochainement, le cinéma sera peut-être peint aux couleurs d'un navire de la Seconde Guerre mondiale ou bien d'une pirogue mélanésienne.
Histoire toujours avec l'officialisation d'une convention hier soir entre la ville d'Albi et le musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Albi est la ville de naissance de La Pérouse et renforce son engagement pour valoriser le célèbre navigateur. La ville travaille à établir un partenariat avec le musée maritime de Nouvelle-Calédonie et notamment pour créer un futur établissement culturel, Escale La Pérouse des mondes à explorer, qui ambitionne de retracer l'histoire de l'expédition La Pérouse tout en abordant des thématiques plus larges. Écoutez Adelin Lebréus, le président du musée maritime de Nouvelle-Calédonie.
C'est pour officialiser une convention cadre qui vient d'être passée entre la ville d'Albi et le musée maritime de Nouvelle-Calédonie, qui consiste essentiellement à des échanges sur La Pérouse. C'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire c'est pas à Albi, c'est pas un musée qu'ils font. C'est une structure qui sera ouverte à tous les découvreurs, etc., et qui sera universel, comme l'a dit la maire d'Albi. Ça nous fait un partenaire de plus, c'est-à-dire qu'on a non seulement, parce qu'on ne vit pas dans notre monde clos ici à Nouméa, on a des relations avec tous les musées, je dirais, du monde qui s'intéressent à La Pérouse, qu'ils soient en Australie, qu'ils soient aux États-Unis, disons, tous les secteurs qu'a fait La Pérouse. Donc si vous nous, par exemple, pour les objets qu'on a retrouvés provenant d'Alaska, on a des relations donc avec les musées américains. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas vivre en vase clos.
Et ce partenariat entre la ville d'Albi et le musée maritime de Nouvelle-Calédonie visera à renforcer les liens historiques entre les deux entités qui pourront unir leurs efforts pour valoriser l'héritage de l'expédition La Pérouse et promouvoir le patrimoine maritime. 11h47, dans un instant après une nouvelle pause, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'est déjà Noël chez Simac Quincaillerie. Depuis le 15 novembre, découvrez notre catalogue en ligne de machines Makita à prix canon sur simac.nc. Les bonnes idées cadeaux, c'est chez Simac Quincaillerie. À Nouméa, carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Bodin.
L'avenir de Michel Barnier à Matignon est sans doute en train de se jouer ces jours-ci. Le Premier ministre a annoncé qu'il aurait recours en cas de besoin, ce qui apparaît inévitable, à l'article 49.3 pour faire adopter le budget 2025. Dans ce cas de figure, le groupe La France Insoumise a déjà annoncé son intention de déposer une motion de censure et elle a toutes les chances d'être adoptée si elle recueille aussi les voix du Rassemblement national. Et le groupe dirigé par Marine Le Pen est bien décidé à voter cette motion si le budget n'est pas modifié et n'intègre pas certaines des dispositions proposées par le groupe. Michel Barnier a fait le choix de recevoir tout au long de la semaine les représentants de tous les groupes politiques et il a commencé par Marine Le Pen la nuit dernière pour nous, qui n'a pas manifesté un grand enthousiasme à la sortie de son entretien.
Monsieur le Premier ministre m'a sans doute défendu son budget. Nous verrons si le propos d'aujourd'hui fait son chemin, mais rien n'est moins sûr. Le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions.
Et Marine Le Pen tente de minimiser une éventuelle chute du gouvernement Barnier si jamais la motion de censure devait être votée.
La petite musique consistant à dire s'il y a une censure, ça va être le chaos. Je veux dire, si ce budget passe pas, ben c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là.
Et Michel Barnier va poursuivre ses entretiens avec les responsables des groupes politiques jusqu'à la fin de la semaine. Les agriculteurs restent toujours mobilisés, même si c'est en ordre dispersé. Ils protestent toujours contre le projet d'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais aussi contre les contraintes et les multiples réglementations qui pèsent sur la profession. La nuit dernière pour nous, la coordination rurale a mené des actions dans le Cher, les Ardennes, sur l'autoroute A20 entre Toulouse et Paris, mais aussi dans le Pas-de-Calais à Arras. Le reportage de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Défilé de tracteurs dans les rues d'Arras, des pneus, des palettes et du fumier déversés devant la préfecture. Les agriculteurs de la coordination rurale en action pour maintenir la pression sur les pouvoirs publics.
La révolte agricole n'est pas passagère. La révolte agricole ira jusqu'au bout pour garder au maximum nos agriculteurs français dignes, rémunérés et présents.
Une semaine après la relance du mouvement contre le Mercosur et pour la survie d'une agriculture libérée du poids des normes, les paysans au bonnet jaune ne voient toujours rien venir de la part du gouvernement.
Quand on parle normes, c'est des contraintes qui viennent sur nos exploitations et qui au final grèvent notre résultat. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a eu des réponses claires qui agissent sur le revenu des agriculteurs. Comme l'élevage laitier, comme l'élevage bovin, l'engraissement. On est quand même en agriculture française, il faut quand même arriver à s'en sortir. Quoi. Et puis, bon, depuis une paire d'années, non, il n'y a plus moyen de rien du tout. Quoi.
Alors forcément, dans ce contexte, les mobilisations vont se poursuivre.
Le gouvernement, je pense qu'il est complètement obsolète sur le monde agricole. La mobilisation va prospérer de département en département. C'est une histoire de survie de notre profession. On est là pour entretenir le paysage français et nourrir sainement la population.
Des responsables de la coordination rurale qui plus est très en colère contre la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, présente ici même à Arras jeudi dernier, mais qui n'avait pas souhaité aller à leur rencontre. Arras, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et de son côté, la FNSEA prévoit une nouvelle mobilisation à partir de la nuit prochaine pour nous. Et pour 3 jours. En bref, dans l'actualité judiciaire en métropole, le début des réquisitions dans le procès Pellicot. Dominique Pellicot est accusé d'avoir drogué sa femme avant de la livrer à des inconnus recrutés sur Internet. Il comparaît en compagnie d'une cinquantaine de ses hommes. Le ministère public a requis la peine maximale à son encontre, à savoir 20 ans de réclusion criminelle. Pour les autres accusés, les peines réclamées ne dépassent pas pour l'instant les 10 ans de prison. Mais les réquisitions se poursuivent encore 2 jours devant la cour criminelle du Vaucluse. Et puis on est toujours sans nouvelles de l'écrivain franco-algérien Boualem Massal. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'il a été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Selon toute vraisemblance, il devait passer devant un procureur aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son avocat parisien. Le point sur ce dossier avec William Molinier pour Europe 1.
Son avocat français François Zimmerin, c'est lui qui a été mandaté par Gallimard, l'éditeur de Boualem Sansal. Alors, selon son conseil, l'écrivain devait être présenté dans l'après-midi à un procureur de la République. Mais à cette heure, on ne sait pas si ça a été le cas. Cela fait déjà plusieurs jours que son sort judiciaire est incertain. Sa garde à vue, s'il est poursuivi pour atteinte à l'intégrité nationale, peut durer jusqu'à 12 jours. C'est prévu par l'article 87 bis du Code pénal algérien. Article régulièrement critiqué par la société civile et les ONG qui y voient un fourre-tout liberticide, d'où l'importance, selon François Zimmerin, qu'il puisse être assisté d'un avocat sur place. Pourra-t-il lui-même le choisir ou se verra-t-il désigner un avocat d'office? C'est tout l'enjeu de ces prochaines heures. Boualem Sansal risque la réclusion criminelle à perpétuité et c'est surtout son état de santé qui inquiète ses proches. L'écrivain est âgé de 75 ans. Personne ne sait vraiment quelles sont à ce jour ses conditions de détention.
Il est 11h54, quelques mots de sport dans un instant et ensuite ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport avec d'abord un petit mot de voile et la suite du Vendée Globe. Les marins sont en plein milieu de l'Atlantique Sud. Après avoir frôlé la partie la plus à l'est du continent sud-américain, ils font route vers le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. C'est Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance qui a pris la tête de la course. Il devance Thomas Ruyant sur Vulnérable de 42 000 nautiques et Johan Richaume sur Paprec Arkea de 89 000 nautiques. Et puis en football, le sort de l'entraîneur calédonien de Nantes, Antoine Comboiré, reste incertain. Son équipe accumule les mauvais résultats, notamment aucune victoire sur les 9 derniers matchs de Ligue 1. Et le programme des Canaries est chargé avec un déplacement au PSG le week-end prochain, avant des rencontres dans les semaines qui viennent contre les cadors du championnat, Rennes, Brest, Lille ou encore Monaco. Selon le journal L'Équipe, toutefois, Antoine Comboiré sera bien sur le banc de Nantes pour la rencontre au Parc des Princes face au PSG, son ancien club, le week-end prochain.